Interview.
Okay, då börjar vi.
L'interview du jour.
Bonjour, ici R. Diwa pour l'interview, émission que vous écoutez sur les ondes FM en 107.5 et aussi en 101.7 sur Luc en Diwa. Et nous sommes en podcast sur le site internet www.rdwa.fr. Au studio, aujourd'hui, nous sommes avec Monsieur Claude Verret. Bonjour.
Bonjour à la radio, bonjour aux auditrices et auditeurs.
Claude Verret, comme tous les ans, vous êtes ici pour nous parler de l'écologie au quotidien, l'association dont vous êtes le président.
Non, pas du tout. Il y a trois co-présidentes, trois co-secrétaires et trois co-trésoriers. Je suis un des secrétaires, un des administrateurs lambda de l'association.
Et vous êtes donc pour nous parler de la 20e rencontre, les 20e rencontres de Die et de la Buvalet. Et ça sera intitulé cette année « Solidaire pour une terre vivante ». Ça se déroulera du 21 au 30 janvier 2022 sur Die. Et on expliquera les divers lieux d'accueil de tout ce qu'on pourra y trouver. Donc des débats, des conférences, des spectacles, des animations, des ateliers, des projections, de films aussi. Et on peut résumer d'abord ou introduire cette émission par nous expliquer ce titre « Solidaire pour une terre vivante ».
Alors, solidaire, c'est notre préoccupation permanente depuis 20 ans, puisque ce seront les 20 ans en janvier, donc vendredi prochain. Et pourquoi ? Parce qu'on pense que sur les mutations qui s'amorcent, les transitions qui s'amorcent au niveau écologique, social et démocratique, il faut emmener tout le monde. Il ne sert à rien de faire pour une élite des transitions si on laisse des gens au bord du chemin. Donc c'est un des fondamentaux de l'association Écologie au quotidien. C'est son ADN depuis le départ, puisque quand on a fondé l'association il y a 20 ans, faisait partie de la dynamique de démarrage, la Carline, qui est une entreprise, à l'époque c'était une association, le Heliopsis, une entreprise d'énergie renouvelable de Saint-Julien-en-Quin autour d'Olivier Girard, le CPIE du Vercors, qui avait une antenne sur Châtillon-en-Diois, mais qui a disparu, il y a quelques années, comme le CPIE du Vercors d'ailleurs, et puis le Centre, l'Espace social et culturel du Diwa, qui est né à peu près à la même époque que Écologie au quotidien, dans les années 99-2000, autour d'un programme qui s'appelait politique, qui s'appelait Nouvelle Famille, Nouvel Habitat, et on transformait la MJC en centre social.
Alors, solidaire, c'est le maître mot. Une terre vivante, dans quel état est-elle aujourd'hui ?
Pour une terre vivante, évidemment, l'état où on laisse la planète à nos enfants ce jour, avec un réchauffement climatique à 2 degrés et quasiment irréversible, avec un état de disparition de la biodiversité gravissime, particulièrement sur les insectes et les oiseaux, y compris dans le Diwa, avec un état des océans, tant par la pollution que le raclage des fonds des océans au niveau des poissons dans un état lamentable, plus la pollution, plus les produits chimiques. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on laisse une belle planète à nos enfants et nos petits-enfants. Donc, pour une terre vivante, parce que la vie, le vivant, tous les êtres non humains ont droit de cité, ont droit de vivre. Et ça fait partie des challenges qui s'annoncent pour les années à venir, pour le siècle qui vient.
Alors, cette terre, dans l'état où elle va, du moins, est-ce que c'est à l'image aussi de l'humanité par ses actions et puis aussi pour sa propre, comment dire, sa propre... c'est pas une préoccupation, loin de là, c'est plutôt une certaine désinvolture de l'humanité sur les autres espèces.
Alors, bien évidemment, quand vous parlez de certaines désinvoltures par rapport aux autres espèces, il est évident que depuis 100 ans à peu près, on a négligé tous les autres êtres vivants. On a même prélevé d'une façon éhontée. Alors, sur la vie sauvage, on parle des derniers tigres, on parle des derniers éléphants dans certains pays. On parle de à peu près 2000 espèces qui seraient en voie d'extinction. On a, on ne regarde pas vraiment, mais au niveau des insectes et des oiseaux autour de nous, il y a à peu près 50% qui ont disparu. Quand on parle des espèces qui disparaissent, il ne faut pas oublier qu'une grande partie de la reproduction, par exemple, des végétaux, des arbres, se font par les oiseaux. Et évidemment que derrière, il y a une disparition de la biodiversité végétale. Quand je dis ça, je pense quand même aux humains, parce qu'aux humains, depuis aussi une centaine d'années, les gens étant particulièrement dans le tiers-monde exploités de façon outrancière avec des prélèvements d'uranium, de lithium, de charbon de façon éhontée. On a rendu un système économique quasiment esclavagiste du Sud et donc tout est à revisiter dans notre système politique, social et démocratique. Et quand je dis démocratique, je pense que ça, c'est aussi un des éléments qui est en vous parler de désinvolture. Aujourd'hui, il y a plus de la moitié des pays du monde qui sont passés de systèmes autoritaires à quasiment des systèmes dictatoriaux. On ne pensait pas, après 68, on pensait que tout allait presque se sortir par le haut de cette aventure. Hein. On se rappelle le verre d'eau du premier candidat président écolo, René Dumont, en 1974, quand il montait et présentait ça comme une valeur à protéger. Depuis 1974 et le rapport Meadow de 1972, on n'a absolument rien fait au niveau de la protection de l'environnement et des autres espèces.
Alors, ce sujet de la Terre vivante, ce sera abordé par une multitude de conférences, d'intervenants aussi. On pourrait en citer quelques-uns.
Alors, les rencontres ces 20 années, qu'on pensait beaucoup plus florissantes et dynamiques, mais vu les conditions sanitaires que la pandémie exige et que l'État exige, ce sera plutôt des rencontres moyennes, oui, le mot est convenable. Il y aura quand même 72 rendez-vous avec 200 invités. Bien évidemment, ça se fera dans les conditions sanitaires exigées par la réglementation. Donc, ça se fera beaucoup en extérieur. On a à peu près la moitié des rendez-vous qui vont se passer au bord de la rivière, au bord de la forêt, auprès de spots de vautours, de castors ou d'écrevisses à pattes blanches. Et donc, nous essayons au maximum de nous adapter. Après, on a on a tout un tas d'invités qui viendront intervenir sur l'agriculture, les mobilités douces, le tri des déchets, des choses qui sont éminemment du territoire et qui vont se passer dans des salles privées et qui, on l'espère, auront lieu comme habituellement. C'est un programme qui a été difficile à monter. On a pas mal d'intervenants aussi qui, toujours sous le coup de la pandémie, ont eu peur d'intervenir. On a deux intervenants importants qui ont abandonné l'idée, c'est Patrick Vivret et Pierre-Rosan Vallon, par exemple, il faut le noter. Et nous-mêmes, nous avons abandonné le bal folk, le premier bal folk du premier samedi soir, parce qu'on a pensé que ce n'était pas judicieux dans cette période pandémique.
À l'époque du numérique, il n'a pas été possible d'intervenir par visioconférence.
Si. Alors, on a prévu 4 ou 5 vidéoconférences en remplacement ou en complément des intervenants. C'est une façon de s'adapter. Après, ce n'est pas du tout l'esprit ou l'âme des rencontres de l'écologie de Die de faire les choses par Zoom ou par vidéoconférence. Les rencontres de Die sont des rencontres extrêmement chaleureuses avec où les gens mangent ensemble, discutent ensemble, se frottent, se frictionnent, s'engueulent même, boivent des coups ensemble, dansent ensemble. On n'est pas du tout dans l'esprit des rencontres. Et ça va beaucoup nous manquer. On s'adapte. C'est le principal mot de l'année, c'est s'adapter.
Je reviens sur le terme de terre vivante. Qu'est-ce qu'on pourrait induire dans ces rencontres concernant la terre vivante? Est-ce qu'il y a un aspect aussi de l'économie mondiale qui est abordé et qui met en évidence justement cette problématique de l'exploitation à tout va au détriment de la nature et qui nous revient à la figure par ce type de virus, par exemple, que l'on a actuellement?
Alors, on a des temps. D'abord, on a un temps avec Wolfgang Kramer et le laboratoire d'écologie alpine. On a un état des lieux au niveau puisque Wolfgang Kramer était vice-président du GIEC, il fait un état des lieux au niveau du climat. Et donc, on va avoir un moment extrêmement important Et quand je parlais tout à l'heure d'irréversibilité du dérèglement climatique, on en a discuté beaucoup avec ce vice-président du GIEC. On est dans l'irréversibilité aujourd'hui et ce n'est pas dans les 200 ans qu'on reviendra au climat de 1800-1850. Donc, c'est un sujet qu'on va aborder. Avec le laboratoire d'écologie alpine, on va aborder les problèmes de l'eau, bien évidemment. On sait très bien, nous qui vivons ici, enfin moi qui vis ici depuis Saint-Quentin, je sais très bien l'enneigement qui est parti. Je sais très bien les pluviométries de ce territoire. Le laboratoire d'écologie alpine nous apportera un éclairage scientifique sur le sujet. Et on sait très bien qu'il va falloir s'adapter à la pénurie d'eau. Ça, c'est un fait. Ça, adapter notre agriculture et notre alimentation à cette difficulté de pouvoir irriguer comme on l'a fait depuis l'après-guerre. Et puis aussi de voir comment les forêts vont évoluer sur ce territoire. Et quand je parle des forêts, je pense aussi aux méga incendies qui ont eu lieu à Chypre ou en Grèce ou en Sicile à certains moments, en Turquie, en Algérie même. Et donc, on voit se rapprocher ces méga-feux. C'est un problème que le DIWA va devoir affronter dans les temps qui viennent.
Quelles applications sont proposées aussi par rapport à qu'est-ce que vous proposez en alternance dans les conférences ou les rendez-vous qui seront donnés pour cette écologie au quotidien pour justement contrecarrer cette irréversibilité, même si c'est utopique?
Alors, depuis 20 ans, on essaye de voir comment des citoyens et des citoyennes peuvent changer les choses. Et depuis 20 ans, on s'est aperçu que le monde associatif, même avec une bonne volonté, voire d'excellentes idées, ne pouvait pas changer le monde tout seul. Et il fallait faire avec les élus qui détiennent la décision et qui détiennent aussi la manne financière. Et puis, il fallait voir avec des entreprises si elles étaient en capacité ou en volonté de changer. On est dans cette triarticulation où on essaye de mettre tout le monde autour de la table, de se connaître les uns les autres, de se reconnaître les uns les autres et d'arriver à des mutations. Aujourd'hui, certaines entreprises du DIWA ou de Verschny sont en train d'imaginer comment ils vont passer de machines à fuel à des machines à hydrogène, par exemple. On fait l'animation hydrogène, Écologie au quotidien fait l'animation hydrogène autour du sujet avec la vallée de Quin. Et donc, c'est cette dynamique qu'on essaye de mettre en place. Pareil au niveau du tri des déchets, au niveau de la mobilité, et particulièrement des circuits vélos et tout ça. On essaye de mettre en articulation le monde politique, le monde économique et le monde associatif, les mouvements sociaux, afin qu'il y ait une réelle discussion, un réel débat, voire une négociation pour mettre en place les transitions et les alternatives nécessaires. Je pense que jamais on a été autant écouté que pendant cette période. Je pense que la mairie de Die, la communauté de communes et Biovallée sont très attentifs à ce que fait le monde associatif. Et ça fait partie de la transition. Alors, ça ne va jamais assez vite pour le mouvement associatif, mais on a déjà des acquis sur, par exemple, la qualité de l'eau de la rivière, sur la biodiversité qui est en train de repeupler nos forêts, sur le retour de certaines espèces animales qui avaient disparu. Donc, on est plutôt dans une période que nous, on pense faste pour notre territoire.
Un sujet sur l'eau, donc, aussi, un grand thème. Est-ce que c'est une manière aussi de faire un constat, d'opérer un constat sur le territoire, voir l'évolution ou les régressions du système hydraulique dans le DIWA, par exemple?
Alors oui, bien évidemment, c'est un temps pour faire un constat. Un constat, par exemple, au niveau de... On le voit très bien sur les forêts. Les pins sont en train de mourir. Nous, on est allé constater ça sur Val-Drôme, où les pins sont en train de mourir. Alors, que le pin meure, il a été replanté pendant la restauration des terrains de montagne. C'était un pionnier. Il nous a été indispensable pour retenir la terre et les alluvions qui seraient tous partis dans la Drôme et dans le Rhône. Donc, ça a été une époque. Aujourd'hui, une politique forestière en fonction du dérèglement climatique, va être une politique de reforestation avec des feuillus, toujours pour garder l'eau sur le territoire, pour éviter aussi les incendies. Donc, c'est un gros travail qui va être fait. Nous-mêmes, on plante des arbres depuis 2 ans. Hein. On est arrivé presque à 4000 arbres ce jour. On en va en planter encore 3000 cet hiver et ce printemps. Donc, on prend à bras le corps l'avenir du territoire. Après, il y a des mutations que va être obligé de prendre l'agriculture. Alors l'agriculture, en 70, l'agriculture biologique, par exemple, démarrait. Aujourd'hui, l'agriculture biologique sur le Diois, c'est à peu près 50% des agriculteurs. C'est une agriculture qui se passe beaucoup de l'eau. Les agriculteurs bio ont abandonné le maïs et toutes les cultures hydrophages de la période de faste de l'agriculture des années 70-80. Et on est dans des reconversions, tout doucement. Les plantes aromatiques et médicinales remplacent le maïs. Et petit à petit, ce type d'agriculture va prendre sa place. Elle entraîne beaucoup de mutations. Elle a entraîné la création de la carline, par exemple, et d'autres épiceries solidaires à Oust ou à Beaufort-sur-Gervanne. On est en train de changer les choses. Ça va, on peut toujours le dire que ça ne va pas assez vite, mais les mutations sont bien entreprises sur ce territoire.
Pour illustrer ces rencontres, il y aura des projections de films avec des documentaires ou des fictions, je ne sais pas, engagées.
Alors, on a plusieurs types de films. On a une dizaine de films qui sont projetés cette année, des films débat. On en a deux au cinéma Le Pestel, par exemple. Alors, les deux films du Pestel, c'est Animals de Cyril Dion, qui est un film engagé et sur lequel interviendront le Emmanuel Caplain et de Saillant, le réalisateur. Donc, on a une vision là par rapport au non-vivant, qui est une... Qui est à la fois un documentaire et un document visionnaire par rapport au non-humain. Et puis, on a un autre film qui passera au Pestel, animé par Écologie au quotidien et par Biovallée, qui s'appelle Le Chêne, qui est un document pédagogique au niveau de la forêt. Ce documentaire, par exemple, qu'il sera passé au Pestel, va passer dans les écoles du Diois et de la Biovallée. Donc, on a un travail pédagogique qu'on va faire dans toutes les écoles, à peu près dans une trentaine d'écoles, de Luce-la-Croix-Haute jusqu'à Livron-l'Oriol, pour sensibiliser les enfants à la biodiversité. On a déjà planté des arbres dans une trentaine d'écoles. Cet travail pédagogique autour de l'arbre viendra compléter le travail qui a été fait autour des plantations d'arbres dans les cours d'école ou dans les jardins des écoles.
Je couperai. Hein. Ça, c'est le programme définitif sur le papier et tout.
Oui,
d'accord. Voilà. Donc, cette année, c'est un peu ceinture, quoi, non?
Oui. Alors, ouais. C'est ceinture pour... Je vais le dire comme ça. Alors, cette année, on a un programme réduit, 72 rendez-vous. D'habitude, on est à peu près au double. Il faut dire qu'il y a beaucoup d'intervenantes ou d'intervenants qui n'étaient pas sûrs de pouvoir venir pendant cette fin de pandémie, peut-être, on ne sait pas. En tout cas, qui n'étaient pas certains de pouvoir... Et puis, il ne faut pas oublier des conditions sanitaires qui seraient exigées à la fin de ce mois de janvier. D'autre part, il y a des personnes, des philosophes ou des écrivains ou des intervenants qui sont âgés. On a plusieurs qui étaient des retraités, dont je parlais tout à l'heure. Donc, qui sont plutôt réticents avec des santé fragiles qui sont plutôt réticents à intervenir encore en public pendant un certain temps. Et puis, bien évidemment, on a, pour respecter les conditions sanitaires, on a abandonné ce qu'on appelle les ERP, les établissements recevant du public. Donc, on a abandonné la salle polyvalente municipale de Die, qui pouvait accueillir plus de 300 personnes. Et donc, on se retrouve avec des jauges modestes, qui sont donc la salle communautaire du Palais social, qui est un lieu social donc qui n'est pas régi par les ERP, et puis 2 salles privées. La salle Saint-Vincent, on a négocié avec l'évêché de comptabiliser les gens et de demander leur nom pour ne pas avoir à réclamer de passe sanitaire ou de passe vaccinal. Et puis, on a loué aussi un aire de famille qui est en train de devenir une école. Et donc, il y avait un espace de vide. Et donc, sur un lieu privé, on va pouvoir réaliser, mais avec des jauges réduites, les événements qui sont prévus dans la programmation. Après, pour être franc, il y a deux autres choix qui nous ont conditionnés aussi à avoir cette jauge réduite et cette programmation plus réduite. D'abord, c'est la mobilisation des bénévoles. Aujourd'hui, on a une centaine de bénévoles. Cette année, on va en avoir... Pour l'instant, on est à 60 qui se sont inscrits sur les registres de l'association. Moins de bénévoles, ça fait moins d'encadrement, moins d'accompagnement. Donc là aussi, il y a une jauge qui est un peu réduite. Et puis, les finances. Bien évidemment, l'année passée, on n'a pas fait de rencontre. Donc, on a perdu, pour être franc, on a perdu exactement 35 000 euros. Le budget des rencontres de l'écologie sur 10 jours, c'est 70 000 euros. 70 000 euros, c'est 7 000 euros par jour. Il ne faut pas croire que c'est un budget gigantesque. On travaille beaucoup en coopération avec d'autres structures, avec le monastère, avec le rocher de Chamaloc, enfin, pour mutualiser un maximum de matériel. Et donc, on est sur un petit budget. Mais les entrées, les repas et le bar, c'est 35 000 euros de rentrée. Alors, bien sûr, comme on n'achètera pas les produits, on va perdre que 25 000 euros. Mais bien évidemment que ça conditionne le nombre d'intervenants et d'intervenantes, voire même la qualité d'intervenants qui demanderaient des sommes un peu plus importantes. Oui, on est dans une période de basse eau au niveau financier et au niveau dynamique associative.
Aucune aide de collectivité ou d'indemnité par rapport à cette désorganisation ?
Non. On a nos financements et nos subventions habituelles. On n'a pas de nouvelles subventions ou d'indemnités. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas dans un... On est une association 1901, donc on a licencié personne. Mais comme on avait une personne en contrat aidé, elle ne peut pas bénéficier d'apports supplémentaires ou de mise au chômage partiel. Et les structures qui nous financent n'ont pas encore pour l'instant, je dis bien pour l'instant, parce qu'on n'a pas les réponses de tout le monde pour 2022, voire 2023. On n'a pas de hausse de ce financement pour l'instant aux grandes dames du monde associatif. Parce que je pense que quand le monde associatif et les rencontres de Die, entre autres, mais pas que, font partie d'une dynamique de territoire. La culture, c'est la promotion, c'est l'ascenseur social sur ce territoire diois depuis toujours. Et que mettre en difficulté les associations pourra avoir des conséquences. Bien sûr, certaines vont disparaître. Des militants et des bénévoles vont peut-être plus mobiliser. Et certains festivals, je pense à Est-Ouest, peut-être ne reviendront jamais sur la scène.
Alors, la solidarité, ça fait partie aussi du programme, hein, solidaire pour une terre vivante. Quel esprit de solidarité peut-on encore trouver sur le Diwa sur quel aspect est-il encouragé aussi ?
Alors, quand on dit solidarité, nous, c'est des pratiques quotidiennes, la solidarité. Par exemple, quand ACOPREV de Saint-Julien-en-Caen nous demande d'aller animer les deux journées hydrogène, on se fait un plaisir d'aller animer les deux journées hydrogène gratuitement, bénévolement. Quand les jardins nourriciers ont besoin d'un local pour pouvoir faire leurs transactions tous les mardis soirs, on met à disposition notre local au 3 rue Saint-Marcel gratuitement aux jardins nourriciers. Quand Biovallée a besoin d'un coup de main et nous aussi avons besoin d'un coup de main pour planter 3000 arbres fruitiers sur l'ensemble du territoire de Luz-la-Croix-Haute à Livron-Loriol, on le fait ensemble, on travaille ensemble, on monte le projet ensemble, on va arracher des arbres ensemble, on va les replanter ensemble, etc., etc. Quand on fait la programmation, vous le regarderez, il y a une quinzaine de temps qui sont co-construits avec Biovallée. Et aussi, par exemple, sur les écoles, avec le laboratoire d'écologie, de la transition plutôt, avec le laboratoire de la transition, qu'anime entre autres Jean-Louis Vira, un travail formidable est fait auprès des écoles, des collèges, des centres de formation et des MFR, des maisons familiales rurales. Et ce travail-là est fait en coopération. On met à disposition notre salarié pour le laboratoire, pour être efficace dans ces lieux pédagogiques. La coopération, pour nous, et la solidarité, même je préfère le mot coopération, c'est vraiment c'est l'essence, c'est aussi l'ADN de l'écologie au quotidien. On adore travailler avec les autres. On grandit en humanité en travaillant avec les autres.
Sur le terrain, la solidarité se développe également, au-delà de ces structures que vous avez citées.
Alors, la réponse est compliquée. Pourquoi ? Parce qu'on est dans une période très difficile au niveau de la pandémie et qu'on peut croire et on peut constater aussi qu'il y a des gens qui prennent des distances mesurables même mathématiques, avec les autres. Beaucoup de gens hésitent à embrasser leurs voisins ou leurs amis. Beaucoup de gens prennent des distances avec le masque et les gestes qui font l'amitié, qui font la convivialité. Beaucoup de temps de réunion se font par Zoom. Beaucoup de temps de conseil d'administration ou d'assemblée générale se font masqués avec des distanciations. Et on peut croire, alors j'espère que ça ne va pas s'ancrer dans les mœurs, qu'il y a une distanciation qui est en train de s'établir. Il y a une rupture de la cohésion sociale. Il y a une rupture du lien social. Pour beaucoup. J'espère que ce sera que passager, qu'on ne s'habituera pas à cette distanciation. Je pense aussi qu'il y a une deuxième mauvaise raison à ces distanciations, c'est le manque d'informations et de lucidité sur cette pandémie qu'on traverse. C'est-à-dire aujourd'hui, beaucoup de gens sont dubitatifs sur les informations qui leur sont données tant par les scientifiques que les politiques. Beaucoup de gens sont dans l'incertitude. Beaucoup de gens n'ont plus tellement confiance dans multitude d'affirmations, voire même de médias. Et donc, cette période n'est pas une période où on construit de la confiance. Et je pense qu'une société se construit d'abord avec de la confiance. Donc, Écologie au quotidien, par ces 70 rendez-vous, essaye de mettre un coin dans cette distanciation, de mettre un coin dans cette difficulté à avoir des liens sociaux et des liens conviviaux, des liens d'amitié avec tout le monde. C'est pour ça qu'on a maintenu les rencontres de l'écologie. C'est parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est humain, qu'on est frère en humanité sur cette terre, et que le plus nous résisterons aux injonctions contre le lien social, contre les amitiés, contre la douceur de vivre ensemble, plus nous avons un devoir de résister pour ne pas perdre l'essentiel de notre humanité.
Il semble aussi que les politiques s'attardent sur des menus détails. Est-ce que, par exemple, il y a ce film qui est sorti aux fêtes de Nouvel An, de Noël, Don't Look Up, je ne sais pas si vous l'avez vu, et c'est un film qui démontre justement l'inaptitude, tout simplement, des gens au pouvoir. Est-ce que, ce n'est pas la même chose, puisque là, c'est une comète, donc le temps est imparti. Ici, c'est beaucoup plus flou, on ne peut pas nous situer précisément les périodes butoirs de notre existence sur la Terre.
Alors, d'abord, on a regardé ce film attentivement et après, j'en ai discuté avec des responsables du GIEC j'en ai discuté aussi avec quelques scientifiques qui ont été amenés à témoigner devant les médias. Eh bien, on s'aperçoit, je ne pensais pas que ce soit aussi pertinent, mais on s'aperçoit que les scientifiques ont eu beaucoup, y compris du GIEC, ont eu beaucoup de difficultés à faire passer, ont toujours beaucoup de difficultés à faire passer les informations. Il y a quand même des milliers de scientifiques autour du GIEC qui sont d'accord pour parler d'un dérèglement climatique anthropique dû aux humains. Et donc, faire passer cette information est souvent pris sur des espaces très courts dans les médias, voire, comme c'est dans le film, sur la comète, où on invite deux climato-négationnistes et deux scientifiques pour faire rire un peu la galerie sur les affirmations des uns, voire des autres, pour créer le doute aussi sur ce problème-là. Et quand les scientifiques sont invités, souvent, c'est pour pas les ridiculiser à ce point-là, mais comme c'est fait dans le film, mais c'est quand même pour relativiser entre une publicité pour une Mercedes et une information hyper importante sur le joueur de tennis. On vous glisse un moment sur le dérèglement climatique, donc ça n'a aucune répercussion au niveau des consciences des humains. Après, au niveau de puisque la question m'est posée, au niveau des politiques, écoutez, je crois que c'était la COP26 à Glasgow. On a eu la COP25, la COP23, etc., etc. On ne peut pas dire, je parlais tout à l'heure du rapport Midov de 72 qui annonçait ce qui s'est passé depuis. Je ne pense pas qu'il y ait eu d'évolution et de prise de décision politique. Ah, des déclarations, oui, qu'il n'y ait pas eu de décision politique éminente et de pratique politique éminente depuis 30-40 ans. Donc oui, je pense que le film relève exactement ce qui se passe, c'est-à-dire une non-prise en compte des vrais problèmes de société et des vrais problèmes climatiques et des vrais problèmes de la planète.
Ce sujet-là est amené aussi en conversation ou en présentation. Alors, justement au non-engagement des pouvoirs publics pour essayer de contrer la catastrophe qui vient.
Non, on n'aura pas de temps. Là. Honnêtement, quand on a créé le projet, on a éliminé une vingtaine de temps forts qui correspondaient aux 20 qui devaient avoir lieu dans la salle polyvalente municipale. Donc, on n'aura pas de temps sur les médias et on n'aura pas de temps sur la désinformation, les fake news et le système politique le système politique qui se fiche royalement de l'écologie et de la solidarité et de la démocratie en ce moment. Je crois que c'est un phénomène qui n'est pas seulement...
Et de l'individu aussi.
De l'individu, il se fiche royalement de nous. Jamais, honnêtement, jamais on a eu autant d'informations à ce jour au niveau scientifique. Sur le dérèglement, sur la disparition des espèces, sur la disparition des poissons ou des oiseaux, des insectes. On n'a jamais eu tant d'informations sur les torts que peuvent créer les pesticides, les insecticides et d'autres produits. Le manque de volonté, c'est flagrant. Alors, au niveau français, on voit le retour des néocotylédones sur les betteraves, mais au niveau européen aussi et au niveau de la COP, comme je disais tout à l'heure, il y a une vraie volonté de ne rien faire. C'est vraiment la négation du politique. C'est Mendès France qui disait « gouverner, c'est prévoir ». Eh bien là, on est absolument dans quelque chose qui ne correspond absolument pas à de la politique. On est quelque chose qui est simplement une application, pour moi, je le dis franchement, une application du pouvoir des lobbies. Alors, quand les lobbies de la chasse décident ça, le gouvernement fait ça. Quand les lobbies des pesticides décident ça, ils font ça. Quand les lobbies de la FNSEA veulent ça, on fait ça. Quand les lobbies du nucléaire veulent classer le nucléaire dans les énergies renouvelables, on classe au niveau européen le nucléaire dans les énergies renouvelables. Je pense que là, on atteint le plafond du cynisme.
Est-ce que, justement, il existe un lobby de l'écologie ?
Alors, le monde de l'écologie est principalement animé, agité par le monde associatif. Et ça, depuis une bonne cinquantaine d'années. Le monde associatif n'est pas le monde qui détient des richesses immenses. Et chaque fois que le monde associatif peine à avoir des subventions, qui sont conditionnés aussi par leur attitude vis-à-vis du pouvoir politique, ils peinent à mobiliser. Aujourd'hui, pour 30 000 lobbyistes qu'il y a à Bruxelles, il y a à peu près une vingtaine de lobbyistes du monde de l'écologie, qui sont du monde associatif, et bien sûr de Greenpeace, de la FNE, des grandes associations écologistes. Et quand les lobbies de la chimie, du nucléaire, distribuent dans les boîtes aux lettres des dossiers de 200 ou 300 pages en papier glacé à tous les députés européens. Les associations distribuent des photocopies noires et blancs de 25 pages pour alerter sur les problèmes. On ne joue pas dans la même cour. Le pouvoir industriel, le pouvoir capitaliste, le pouvoir ultra-libéral est devenu totalitaire et le monde associatif rame par rapport au lobby.
Est-ce qu'on a tout abordé ? C'est dur à dire, hein, mais il y a peut-être d'autres sujets ?
Il y a un sujet que j'aimerais bien aborder. C'est un sujet double qu'on n'aborde jamais dans les émissions radio. Et c'est pour ça que ça me ferait plaisir de l'aborder. C'est la dynamique des bénévoles. Les rencontres de l'écologie tiennent, et je tiens à le dire, depuis 20 ans, grâce à une dynamique bénévole. Si on n'avait pas 100 bénévoles qui s'occupent de tout, qui s'occupe de la décoration, qui s'occupe de l'aménagement, qui s'occupe d'accueillir les visiteurs, qui s'occupe à rentrer et sortir les tables, qui s'occupe à faire l'accueil, à loger, pour une part, à loger des intervenants ou des personnes, des visiteurs. Si on n'avait pas ce réseau de bénévoles, les rencontres ne seraient pas là. Alors, on a une chance inouïe. Les rencontres de l'écologie sont peut-être une des rares associations où on refuse des bénévoles. Alors, les bénévoles, il ne faut pas oublier que chez nous, quand les rencontres durent 10 jours et que les gens viennent installer habituellement la salle polyvalente, ils sont 5-6 jours avant et ils sont 4-5 jours après pour le démontage. Donc, c'est 21 jours à vivre ensemble, 21 jours à savoir se parler, à savoir s'écouter, à savoir travailler ensemble, peut-être à s'installer sur le territoire et en tout cas à un moment de savoir communiquer. C'est 21 jours de formation pour les bénévoles, en plus de ce qu'ils peuvent voir au niveau des films, des débats, des expositions et des balades en forêt. C'est un travail de formation de ces jeunes, d'une centaine de jeunes pendant 21 jours. Pour moi, c'est un moment extrêmement puissant. Pour la jeunesse, parce qu'on a beaucoup de jeunes parmi les bénévoles, c'est pour la jeunesse de ce territoire. Et puis, il y a un deuxième point qui me semble essentiel. Depuis 20 ans, on accueille chez l'habitant les visiteurs, les bénévoles et les conférenciers ou les intervenants. Et ça, c'est un petit quelque chose qu'on ne voit pas quand on regarde les rencontres de l'extérieur. On ne sait pas tout ce qui se passe souterrainement. Et l'accueil chez les habitants a des répercussions assez incroyables. Il y a des gens qui... Moi, je l'ai vu. J'ai vu des gens qui... Des intervenants, des grands conférenciers, des philosophes qui envoient des cartes postales à la famille où ils ont été accueillis pour le jour de l'an ou pour Noël, et puis qui reviennent en vacances. Et puis, il y en a qui se sont installés dans le Diwa, que vous savez très bien qu'il y a des écrivains qui se sont installés dans le Diwa suite aux rencontres de l'écologie, et des gens qui ne sont pas écrivains, mais suite à la dynamique associative de ce territoire, se sont installés dans le Diwa ou dans la Biovallée. Donc, il y a un lien qui se fait avec l'urbanisation, avec les citadins, et on pense que ce territoire d'accueil, d'hospitalité qui est cultivé ici depuis les protestants, depuis la guerre, cette qualité de l'hospitalité, nous, on la cultive pendant toutes les rencontres et c'est invisible, mais c'est quelque chose qui enrichit le territoire.
Claude Verret, je vous remercie en tout cas d'être venu nous parler d'écologie au quotidien pour ces 20e rencontres dédiées et de la Biovallée. Avec ce titre, donc, solidaire pour une terre vivante. Pour se renseigner, il existe un site qui s'intitule www.écologieaucotidien.fr. Et là, vous trouverez en détail les programmes et les lieux indiqués. D'ailleurs, nous invitons les auditeurs à se renseigner à cette période pour savoir qu'en sera-t-il de l'accès à ces rencontres. Voilà. Eh bien... Il y a aussi ce programme qu'on pourra trouver.
On trouve dans tous les magasins, cinéma, médiathèque, magasins bio, lieux publics, espaces sociaux, MJC de la Drôme, de l'Ardèche et de l'Isère.
Bonne soirée.
Eh ben, je remercie la radio, je remercie les auditrices et les auditeurs. Et puis, bonne rencontre.
Au revoir.
Je vous invite.
look around.